France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui, deuxième partie de notre émission sur la vie quotidienne des Français sous l'occupation.
Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt.
Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt.
Ans d'histoire. Le 14 juin 1940, un communiqué du haut commandement de la Wehrmacht annonçait l'entrée de l'armée allemande dans Paris. Elle allait y rester 4 ans. C'était le début d'une des périodes les plus sombres de l'histoire de France. Mais si pour la plupart des Français, ces années ont été des années noires, elles ne l'ont pas été pour tout le monde. Jamais, a dit un jour Jean-Paul Sartre, jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation. Il est vrai qu'en 1944, au moment où les derniers trains de déportés allaient quitter la France, et quelques jours avant le débarquement en Normandie, personne n'avait empêché Sartre de faire jouer la première de huis clos devant un parterre d'uniformes vert de gris. Car jamais les Français et leurs occupants ne sont allés aussi souvent au théâtre et au cinéma que pendant l'occupation, même si en 1944, les Allemands ne se sentaient pas aussi bien en France que quand ils y étaient arrivés 4 ans plus tôt.
Nous nous arrêtons ici sur les grands boulevards dans un café où il y a, comme d'habitude, beaucoup de monde. Chacun prend son apéritif, ou un café, ou un demi. Et nous allons essayer d'interroger quelqu'un de Paris pour savoir ce qu'il pense du Paris sous l'occupation allemande. Qu'est-ce que vous pensez des relations entre les troupes allemandes et la population civile? Croyez-vous, sentez-vous, voyez-vous que les gens ont peur ou que les gens se méfient ou je ne sais pas quelles sont vos impressions là-dessus?
Oh non, monsieur, personnellement, je trouve que les relations sont très cordiales et je remarque que partout, les Français, les Parisiens notamment, sont très, très empressés à donner les renseignements que demande un soldat allemand qui cherche sa rue, qui cherche son hôtel ou qui cherche un bon restaurant.
Le rideau se lève et sur la grande scène restée obscure du casino, Suzy paraît. Sous les feux croisés de deux projecteurs, elle s'avance jusqu'au proscenium. Grande, mince, roulée par une robe noire qui laisse ses épaules et ses bras nus, son beau visage rendu encore plus lumineux par ses cheveux d'or, Suzy Solidor fait penser à une belle figure de proue.
Et voilà ma dernière création, Lily Marley.
En laissant la nuit, la vieille lanterne, soudain s'allume et lui.
Et c'était Suzy Solidor à Paris pendant l'occupation dans un des innombrables cabarets qui accueillaient les soldats allemands en goguette. Bénédicte Vergès-Satignon, Éric Alary, bonjour.
Bonjour.
Nous avons évoqué hier avec vous les difficultés des Français pendant l'occupation, mais pas encore les rapports qu'ils entretenaient avec l'armée allemande d'occupation. Des rapports qui ont évolué d'ailleurs dans le temps, qui se sont durcis au fur et à mesure, mais au début, on disait souvent que les soldats allemands étaient corrects, ce qui a surpris, dit-on, beaucoup de Parisiens notamment. Bénédicte Vergès-Chaignon.
C'est pour ça que les gens s'étaient enfuis au cours de l'Exode. C'est parce qu'ils redoutaient ce que les Allemands allaient leur faire dans le droit fil de la propagande de la Première Guerre mondiale. Viol de femmes, mains coupées des enfants, assassinat des hommes. Bon, tout cela ne s'est pas produit, ou du moins à petite échelle. Et donc, effectivement, disons que l'arrivée de la Wehrmacht, c'était plutôt une bonne surprise quant à ces conditions, dans des villes qui étaient des villes ouvertes. Hein, on ne combattait pas pour défendre rue à rue et faubourg à faubourg. Alors, effectivement, pour les Parisiens qui restaient en juin 40 à Paris, l'accommodement ne s'est pas fait trop mal au début. Et on voit même un des premiers textes de résistance en juillet 1940, celui de Jean Texier, conseil à l'occupé, demander à ses concitoyens d'éviter de renseigner les Allemands quand ils cherchent une rue, d'éviter d'aller les applaudir quand ils donnent un concert de musique militaire. Parce que peut-être que cet accommodement était un peu trop insupportable aux patriotes.
Et étale une belle indifférence, mais entretient secrètement ta colère, elle pourra servir. C'était un des multiples conseils à l'occuper. C'est vrai que la résistance, au début, ce n'est pratiquement que cela. Il n'y a pas 40 millions de pétainistes, comme l'avait écrit Henri Amouroux, qui était un des premiers à avoir écrit une vie quotidienne des Français sous l'occupation. Mais il n'y avait pas non plus 40 millions de résistants, il faut bien le dire. Et des rapports, donc, effectivement, qui d'ailleurs ont conduit plus tard des gens à être accusés de collaboration sous prétexte, ou des femmes en particulier, sous prétexte qu'elles fréquentaient des Allemands, Éric Alary.
Oui, alors l'épuration, vous faites allusion à ce qu'on appelle l'épuration sauvage, notamment, et ces femmes tondues, difficile de chiffrer, plusieurs milliers de femmes ont été tondues en France. On sait un peu moins, il y a aussi des hommes qui ont été tondus et qui ont servi un petit peu de bouc émissaire à la vindicte populaire. Beaucoup de femmes ont été tondues pour rien. Il y a eu aussi, alors on le sait, des relations franco-allemandes qui ont conduit à la naissance de plusieurs centaines d'enfants. Enfants qui ont eu un après-guerre extrêmement compliqué. Des enfants de Bosch, comme on les appelait, extrêmement vilipendés, très mal vus, battus par leurs camarades à l'école, et rejetés, ostracisés même par un certain nombre d'enseignants.
Alors la résistance, c'est très peu de choses. Au début, c'est aussi des choses plutôt symboliques, la campagne des V, comme on les appelait, V comme victoire. C'est aussi, par exemple, une manifestation, je crois que c'est la première manifestation importante de résistance, d'étudiants parisiens, le 11 novembre 1940, Bénédicte Vergès-Chatrichignan.
Oui, au début, il s'agit simplement de faire des gestes patriotiques, c'est-à-dire de pouvoir arborer le drapeau ou les trois couleurs, ce qui est en principe interdit en zone occupée. C'est de marquer le 14 juillet, le 11 novembre, aussi de marquer la solidarité avec les alliés en allant fleurir la tombe des soldats britanniques qui sont morts en France. Et puis d'autre part, ce sont des petits tracts, des petits papillons qu'on se passe sous le manteau, des inscriptions effectivement à la craie sur les murs. Le V de la victoire, c'est une campagne européenne lancée par la radio anglaise. Donc ce n'est rien et en même temps, c'est énorme. C'est la minute de silence du 1er janvier 1942. Bon, ce sont de petits gestes de dignité.
Et cela dans un pays où, malgré les rigueurs de l'occupation, eh bien, on n'a jamais été si souvent au théâtre ou au cinéma.
Amis de l'écran, le cinéma français a produit cette saison un effort considérable en réalisant pour votre distraction des films nombreux et de qualité, Les Visiteurs du Soir. Au Caral, vous avez ri ou pleuré, vous avez trépigné de joie ou vous avez été captivé. Tous, vous avez subi la crème magique de l'écran. Un moment, ne partez pas encore, veuillez vous rasseoir. Vous n'avez vu qu'un côté de l'écran, voici maintenant l'autre côté où vivent tous ceux qui travaillent pendant de longs mois pour votre plaisir d'une heure. Parmi eux, hélas, il est bien des misères à soulager. Les œuvres sociales du cinéma ont besoin de vous. Du 10 au 17 mars, la semaine du cinéma aura lieu, pendant laquelle le prix de votre place sera augmenté de quelques francs.
La semaine du cinéma est organisée au bénéfice du Secours national et des œuvres sociales du cinéma.
Nous comptons sur vous. Merci.
Les cheveux tout frisottés, le col haut de 18 pieds. Ah, ils sont zen. Le doigt comme ça en l'air, le veston qui traîne par terre. Ah, mais ils sont zen. Ils ont des pantalons d'une coupe inouïe qui arrivent un peu au-dessus des genoux. Et qu'il pleuve ou qu'il vente, ils ont un parapluie, des grosses lunettes noires et puis surtout.
Ils ont l'air dégoûtés de tous ces petits agités. Oh, mais ils sont azous.
Johnny Hess, les Azous. C'était quoi les Azous, Éric Alary?
Ce sont des jeunes Français qui, en fait, ont voulu provoquer le pouvoir, le régime en place et surtout l'occupant. Ça apparaît vers la mi-41. Alors, les garçons s'habillaient avec des brosses hautes, des pantalons amples, des manteaux longs, les filles blondes platine. Alors, la nuit, ils recherchaient les dancings clandestins pour danser, pour provoquer, pour essayer de réveiller un petit peu l'ensemble des Français. Et puis, une jeunesse qui qui en a marre de l'étau qui lui est imposé chaque jour.
Et qui a aussi un physique qui n'est pas Révolution nationale, qui n'est pas sportif, athlétique, sain. Voilà, hein, c'est quelque chose qui va à contresens de l'idéologie dominante.
Alors il y a une chose qui surprend toujours, c'est cette espèce de soif de distraction. On est quand même à un moment terrible et qui va le devenir de plus en plus, cette phase de distraction des Français pendant l'occupation, Éric Alary.
Comment l'expliquer ? Les Français, on peut les voir de nombreux films, pas toujours de très bon goût et de bonne qualité. La censure allemande veillait. Effectivement, le cinéma allemand avait des intérêts financiers dans les grosses superproductions françaises. Les Français allaient au théâtre, allaient au cinéma aussi pour se chauffer. C'était aussi un lieu de rencontre,
oui,
un lieu de sociabilité.
Il n'y avait pas de charbon, voilà. Le chauffage était souvent inexistant. Il y a eu des hivers terribles.
Les hivers terribles, 1940, 1944, sont parmi les hivers les plus durs du XXe siècle, les hivers du début des années 40. Alors, beaucoup de lecteurs également, beaucoup plus de lecteurs pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que il y avait pénurie de papier, qu'on ne pouvait plus acheter de livres. Et donc, la bibliothèque est aussi un endroit chauffé où se retrouvaient, bien sûr, les Français. Et donc, Vichy a tenté aussi de déstocker ou de donner un peu plus de papier pour imprimer des ouvrages souvent favorables au régime de Vichy. Alors, pour l'enfance, il y avait des revues comme Téméraire, comme Cœur vaillant, qui publient quand même à 100 000 exemplaires en 1942, alors qu'il y a pénurie de papier.
Pour le reste, il faut rappeler quand même que les grandes maisons d'édition étaient passées sous contrôle. La NRF est entre les mains d'un écrivain collaborateur qui est Drieux La Rochelle. Évidemment, on ne peut pas publier n'importe quoi. Il y a la censure quand même, Éric Alary.
Bien sûr, il y a la censure, mais bon, les Français ne sont pas très regardants. Alors, c'est vrai qu'à la fin, alors les chiffres explosent. Les chiffres de fréquentation des salles de cinéma, par exemple, on passe à plus de 300 millions de personnes qui vont au cinéma en 1943 au lieu de 200 millions. Et quand même, en 1943-44, il y a quelques objets qui passent sur les écrans parce que les Français n'acceptent plus certains films mièvres. Mais Goebbels avait dit aussi, dans les territoires occupés, il faut bien les occuper. Il faut leur faire oublier la morosité.
Il y a eu quand même, contrairement à ce que vous dites, quelques grands films. Le cinéma pendant l'occupation a révélé un certain nombre d'acteurs, un certain nombre aussi de metteurs en scène ou confirmé leur talent. Il y a quand même Jacques Becker avec Goupil Main Rouge. Il y a eu Carnet, Les Visiteurs du Soir, en 1942, Les Enfants du Paradis, Clouseau, Le Corbeau, et tout ça d'ailleurs évidemment encouragé par une maison allemande qui était la Continentale, Bénédicte Vergès-Chaignon.
Oui, et Le Corbeau qui est sur le thème de la délation, tristement d'actualité pendant les années d'occupation. En un sens, il arrive que la censure génère des œuvres de qualité parce que il faut faire preuve d'imagination et d'invention pour la contourner. Mais ce sont quand même des objets exceptionnels au milieu d'une production, oui, de pure distraction.
Et alors, distraction aussi, qui se termine tôt, il y a un couvre-feu à 22h, il faut le rappeler. Il faut rappeler aussi une chose, quand on dit la France à l'heure allemande, c'était pas simplement au figuré, c'était au sens propre. Je crois que dès 1940, on avait imposé toutes les horloges de France, en tout cas, était avancé d'une heure pour être à l'heure de Berlin. Si bien que les enfants partaient à l'école alors qu'il faisait encore nuit. En tout cas, la tension n'est pas encore très forte vis-à-vis des autorités d'occupation ou des collaborateurs jusqu'en 1941, quand justement la résistance commence à devenir une résistance armée. Écoutez cette archive extraordinaire enregistrée à Versailles le jour de la création d'une unité française, la LVF, qui partait se battre du côté allemand contre l'URSS qui venait d'être attaquée par Hitler. C'était le 27 août 1941 à la caserne Borgnis des Bordes à Versailles.
Nous avançons sous le port, nous nous précipitons, il y a beaucoup de foule. Je tâche d'avancer avec mon micro, mais que se passe-t-il ?
Messieurs, un attentat. Il vient y avoir un attentat, un homme avec un revolver vient de tirer sur la valle. On vient de tirer sur la valle enregistrée.
La foule crie en ce moment à mort à l'assassin. La minute est épouvantablement bouleversante. Mes chers auditeurs, nous allons quitter la caserne après ce drame qui souligne l'importance, on peut le dire, de la constitution de cette légion française contre le bolchevisme, puisque les agents étrangers, puisque les communistes sont inquiets à ce point qu'ils tentent de se venger de cette création unanime de la part des Français contre ceux qui ont mené le bon combat jusqu'à ce jour, contre ceux qui ont montré la voie, peut seul assurer le salut de la France à l'heure actuelle.
Et c'était en août 1941, le moment où commence vraiment la résistance armée contre non seulement les collaborateurs, mais aussi contre l'occupant. Et de ce point de vue-là, Radio Paris ne ment pas, effectivement, une résistance armée communiste, Bénédicte Vergès-Chaignon.
Oui, le Parti communiste français entre à ce moment-là en résistance et va diligenter durant l'été 1941 les premiers attentats individuels contre des officiers et des soldats allemands, des troupes d'occupation en France. Ce qui va donner lieu aux premières opérations terribles de répression, à savoir les exécutions des otages désignés arbitrairement.
À Châteaubriand, par exemple.
Par exemple. Ouais. Donc, c'est le moment où les Français comprennent aussi que le danger va être partout pour eux.
Que les Allemands sont moins corrects qu'on le disait.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça va aller crescendo dans la répression avec l'instauration du STO, par exemple, où les jeunes
Service
gens...
Service travail obligatoire. Oui,
voilà, les jeunes gens vont être susceptibles d'être raflés pour être envoyés en Allemagne pour travailler. Et puis, au fur et à mesure que les attentats individuels contre des Allemands, mais aussi contre des partisans de la collaboration, vont se développer, on va entrer dans ce qu'on appellera plus tard l'encrenage, provocation, répression, solidarité.
Et dont une autre catégorie de la population va être victime, alors les Juifs. Il faut rappeler que dès 1940, ils sont déjà victimes d'une discrimination, d'une politique antisémite qui est d'autant plus scandaleuse qu'elle n'a pas été dictée par les Allemands, Éric Alary.
Non, c'est le régime de Vichy qui est demandeur, d'abord une première fois par ce qu'on appelle le statut des Juifs en octobre 1940, puis en juin 1941, deuxième statut qui exclut les Juifs progressivement d'un ensemble, de pratiquement toutes les professions, et notamment de la fonction publique. Ça va aller beaucoup plus loin ensuite, à partir du mois de juin 1942, au moment où on impose, où le régime de Vichy impose le port de l'étoile jaune. Et puis ce sont les rafles.
Mais est-ce que au début, avant qu'on arrive aux rafles de juillet 42, est-ce qu'au début, ça ne s'est pas fait un peu dans l'indifférence? Quelle était l'attitude de l'opinion publique lorsqu'ils ont vu que les Juifs étaient mis à l'écart? Ils n'avaient pas droit d'accéder même aux lieux publics. Enfin, c'était assez terrible, mis à l'écart d'un certain nombre de professions. Est-ce que ces mesures discriminatoires ont choqué l'opinion?
Pas vraiment. L'opinion n'est pas vraiment choquée. Elle est plutôt les chines courbées sur les difficultés du ravitaillement, sur la carte interzone qui n'arrive pas, qui ne parvient pas.
Ça vient à la suite aussi d'un antisémitisme qui était partagé par beaucoup de Français dans les années 30, hein, même s'il restait théorique. Et ma foi, ça paraît le prolongement assez naturel de ces opinions.
Il y a le vieux fond antisémite qu'on a vu évidemment au moment de l'affaire Dreyfus et qui se poursuit là. Et c'est vrai aussi que peut-être aussi par charité, une minorité de catholiques a essayé de réagir, mais une très petite minorité, alors que la hiérarchie catholique à ce moment-là était plutôt légaliste et avait plutôt une culture d'obéissance au pouvoir établi. Et pour que des Français, notamment, et notamment un certain nombre de catholiques, puissent réagir, il a fallu que des évêques prennent la parole, notamment après la rafle du Veldiv du 16 et 17 juillet 1942, pour dire « ça suffit ».
Et les rafles de juifs étrangers en zone non occupée de l'été 42 qui se sont déroulées au vu et au su de nombreux Français.
Et même d'ailleurs, ces rafles qui vont se faire et qui vont se faire pendant les années qui vont suivre, enfin dans les deux ans qui vont suivre, avec l'apparition, plutôt le développement, parce que ça existait déjà, vous l'avez déjà dit, d'une maladie très courante à l'époque, le recours à la délation.
La France a failli périr de la juiverie. Mais le danger est-il définitivement écarté? C'est à vous de répondre. Si vous avez été, ou si vous êtes encore les dupes ou les victimes des Juifs, écrivez-nous. Nous devons tous nous unir pour combattre les ennemis de l'intérieur. Aidez-nous dans notre tâche. Votre témoignage vous sera précieux. Les lettres doivent porter l'adresse suivante. Émission Les Juifs contre la France, 116 Champs-Élysées, Paris, 8e.
Paris. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la Sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Oberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet.
Bousquet, le chef de la police française de Vichy, qui est organisateur de la grande rafle du Veldiv à la demande des Allemands en 1942. Comment expliquer quand même cette façon mais extrême de collaborer qu'a eu le régime de Vichy et sa police participant à la grande rafle et aux grandes rafles qui vont suivre, Éric Alary?
On le disait hier, Vichy est pris sans cesse dans un engrenage de concessions. Ça, c'est vraiment la concession majeure qui fait plonger Vichy dans l'inimaginable, c'est-à-dire la signature des accords Bousquet-Auberg, chef de la SS en France, à partir donc du printemps 1942, qui donc va imposer la répression à la demande du régime de Vichy, en tout cas sans trop de résistance, la collaboration franco-allemande, policière, notamment dans le cadre des RAF. D'ailleurs, les enquêtes policières allemande n'aurait jamais été aussi efficace sans l'aide de la préfecture de police de Paris et de la police et de la gendarmerie française. Mais encore là, les situations sont variables d'une région à l'autre en ce qui concerne notamment la gendarmerie, mais également la police. Par exemple, les communistes qui ont été arrêtés pour l'attentat de Nantes d'octobre 41, qui vont être condamnés à mort au Palais Bourbon en mars 1942, n'auraient jamais été arrêtés sans l'aide de la police française. Donc avant les accords Bousquet-Auberg, il y a déjà une collaboration en zone occupée, une collaboration policière franco-allemande. Notons aussi que Bousquet va proposer, avec Laval aussi, l'envoi des enfants dans les convois de la mort pour respecter ces fameux quotas que le régime de Vichy avait promis aux Allemands.
Résultat, 76 000 juifs déportés, dont 2500 seulement reviendront des camps. Est-ce que l'opinion à ce moment-là, maintenant, a achevé quand même de se détacher du régime Bénédicte Vergès-Chéniaud?
Alors, se détacher du régime et de la collaboration, oui, ce qui n'empêchera pas la prolongation d'un sentiment de respect vis-à-vis du maréchal Pétain. C'est une situation un peu schizophrénique de ne plus savoir vers qui se tourner, qui approuver. Je pense au milieu des énormes difficultés où chacun se débat, il se constitue un petit bagage de conviction comme il peut.
Et parmi les difficultés, bien, il y en a une dont on n'a pas parlé, mais qui vont s'aggraver pour les Français jusqu'à la fin de la guerre, et notamment à l'approche et même après le débarquement en Normandie le 6 juin 1944, c'était les bombardements.
Caen et sa banlieue sous les bombes anglo-américaines. La terre de France est redevenue un champ de bataille, et quel champ de bataille! À Caen, impossible de dénombrer les morts. La population fuit épouvantée. Sur 60 000 habitants, 7 000 vivent encore dans les ruines. Les autres, comme aujourd'hui tant de Français, connaissent un nouvel exode. Cependant, ainsi que nous le recommandait le maréchal, n'écoutez pas ceux qui, cherchant à exploiter votre détresse, conduirez votre pays au désastre. Français, restez calmes et disciplinés. Suivez les consignes du président Laval. Vous refuserez d'entendre les appels insidieux qui vous seront adressés. Vous vous refuserez à aggraver la guerre étrangère sur notre sol par l'horreur de la guerre civile.
Alors les bombardements, c'était aussi la vie quotidienne. Celui-là a eu lieu après le débarquement en Normandie. Est-ce que l'opinion publique, justement, comment concevait-elle ces bombardements? Ils ont quand même été très meurtriers, on n'en parle pas beaucoup parce que ce sont les alliés qui ont bombardé. Ils ont fait quand même 70 000 morts, c'est-à-dire l'équivalent des pertes françaises en déportation. Est-ce que l'opinion publique, qu'est-ce qu'elle pensait de ces Américains ou de ces Anglais qui les bombardaient?
Elle en pensait beaucoup de mal. Pensons d'ailleurs aux premiers touchés par les bombardements massifs, qui sont les Bas-Normands. 20 000 civils tués à Saint-Lô, Coutances, etc.
Et avant, hein, il faut rappeler avant, que les villes industrielles étaient bombardées
sûr,
déjà
depuis 43. Nevers, etc.
Les grands ports.
Et bien sûr que la propagande du Vichy a surfé, si vous me permettez l'expression, sur justement ces bombardements alliés. Notamment, depuis que les Américains sont rentrés en 43 dans la bataille des bombardements, les Américains bombardaient de très haut, à très haute altitude. Donc évidemment, la précision des tirs était extrêmement mauvaise. Et c'était surtout à l'encontre des Américains que les Français en avaient. Et là, véritablement, ils essayaient de se réfugier où ils pouvaient.
Un bombardement qui vont se poursuivre, et cela était destiné soit à préparer le débarquement, soit à favoriser l'avancée des Alliés après le débarquement en Normandie. Et puis une opinion quand même qui bascule un petit peu, même si elle met du temps. Elle reçoit par exemple triomphalement, je crois, Pétain à Paris en avril 1944. Mais quelques mois plus tôt, elle est également enthousiaste lorsqu'arrivent les libérateurs de la 2e DB à Paris le 25 août 1944.
Dans la rue de Rivoli, vers le pont, dans l'avenue Victoria, des chars de la division Leclerc
sont arrêtés et je dois vous dire, je dois vous avouer que tes chars sont assaillis par ces Parisiens qui les attendaient depuis si longtemps et qui enfin sont heureux de les serrer la main et de les embrasser, je le dirai aussi.
Comment ?
N'est-ce pas, mademoiselle ?
Oui, alors, oui, alors.
C'est ici, au micro de la radio de la Nation française, que doit avoir lieu le premier contact de la population parisienne.
Il y a là des minutes, je sens en tout, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
De Gaulle à Paris en 1944, au moment de sa libération, on a le sentiment que, pour beaucoup, au fond, tout se termine, tous les problèmes sont finis, les Allemands sont partis, partiront au fil des mois des autres villes françaises, et même en dernier lieu, en 1945, des poches qu'ils occupent encore dans certains ports français, et pourtant, ça continue. Vous le rappeliez hier, par exemple, il y a eu l'épuration, évidemment, hein, qui est directement liée au comportement des uns et des autres pendant l'occupation. Il y aura le retour très difficile des déportés et puis une pénurie qui se prolonge, Bénédicte Vagé-Chatillon, jusqu'en 1949.
Effectivement, la libération a été vécue dans une liesse et un espoir fou qui sont vite retombés devant la durée des difficultés. On avait tellement focalisé sur le fait que c'était les prélèvements allemands qui affamaient les Français et les privaient de tout, qu'on avait pensé que le départ des Allemands ramènerait l'abondance. Seulement, il y avait tout un pays à reconstruire. Plus d'infrastructures routières,
des ports détruits,
les chemins de fer ne fonctionnant plus, les ports ayant disparu, les industries obsolètes, oui, des sans-abri par centaines de milliers. Et donc, eh bien, ce sont toutes les pénuries qui non seulement perdurent, mais éventuellement s'aggravent, nourrissant une détresse qu'on a peine à imaginer maintenant dans cette deuxième moitié des années 40.
Y compris, et on en parle peu, et vous le faites, vous, dans votre livre, très grave encore, plus grave encore peut-être, Éric Alary, dans les colonies.
Dans les colonies, il y a véritablement une augmentation de la répression coloniale contre les colonisés, et puis une misère noire qui va s'installer durablement jusqu'à la fin des années 50 dans une grande partie des colonies. La métropole ne s'occupe plus apparemment des colonies, malgré la
départementalisation.
Elle n'en a plus les moyens. Malgré, par exemple, la départementalisation des quatre vieilles, Guadeloupe, Martinique, etc., en 1946, qui a suscité un espoir. Mais on meurt de maladies du tiers-monde dans la plupart des colonies françaises dans la deuxième partie des années 40. Pourtant, aussi bien en métropole que dans les colonies, chacun a envie de tourner la page, c'est clair, et essaye de se retrousser les manches. Mais les moyens manquent bien souvent.
Mais ça va même au-delà de 1949. Votre livre, c'est la France, les effets de l'occupation jusqu'en 1949. Même au-delà, dans les mentalités, on peut le comprendre, il y a eu 600 000 morts, mais il y a eu un véritable traumatisme, des cicatrices qui ont mis du temps à se refermer.
C'est la peur de manquer. Combien de personnes ont une grand-mère, un grand-père qui garde encore 2 à 3 kilos de sucre dans le placard, 2 litres d'huile? C'est la peur de manquer qui fait beaucoup sourire les jeunes générations, qui ne fait absolument pas rire ce qu'on appelle les anciens. Et puis, les Français ont eu beaucoup de mal aussi à regarder se passer pendant très longtemps. On voit bien que la mémoire métropolitaine a eu beaucoup de mal à se mettre en place, mais que la mémoire coloniale est encore plus longue et aussi à regarder, en tout cas les événements sont encore plus longs à regarder pour les colonies.
Bien, ce passé, vous nous le rappelez tous les deux, Éric Alary et Bénédicte Vergès-Chaignon, dans votre livre écrit également avec Gilles Gauvin, « Les Français au quotidien, 1939-1949 » qui vient de paraître aux éditions Perrin. À lire aussi deux publications récentes, Le Festin du Reich de Fabrizio Calvi et Marc Mazurowski, publié chez Fayard, et Juif dans la France allemande de Michel Lafitte, publié aux éditions Talendier. Vous avez pu entendre une archive tirée du documentaire Archives de guerre, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, présenté par Marc Ferraud et disponible en DVD aux éditions INA Nouveau Monde. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Jean-Philippe Jeanne, documentation Claire Destacan et Emmanuel Fournier, une réalisation de Anne Kobilac.